Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Bonjour tout le monde et bienvenue sur RCN 90.7 dans Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver comme tous les vendredis à la même heure. Et aujourd'hui dans Dialectique, on va aborder un sujet qui est peut-être un peu plus atypique. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler de littérature, malheureusement. Mais bon, vous avez d'autres très belles émissions sur notre antenne, pour en parler. Hein, je pense aux plumes de notre chère Mona que j'embrasse. Aujourd'hui, je vais un peu prendre sa place dans Dialectique et on va parler de Philippe Rondeau. Et Philippe Rondeau, Maître espion, la biographie écrite par Étienne Augry, que j'ai le plaisir de recevoir. Étienne, comment vas-tu ?
Écoute, très bien. Toujours quand j'entends le générique de Dialectique, je me sens tout de suite à l'aise et bien.
C'est Cinerman, hein, Nina Simone, forcément une référence, un classique. Alors, pour les auditeurs, hein, Étienne et moi, on va se tutoyer parce que je ne vais pas vous cacher qu'on se connaît, qu'on est amis. Donc voilà, ne soyez pas surpris. Alors, Étienne, tout d'abord, Philippe Rondeau, ce roman, comment il est né ? Pourquoi avoir décidé d'écrire la vie de ce personnage ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu utilises le mot roman.
Parce c'est vrai.
Il y a un caractère romanesque, bien sûr, dans le personnage, mais je ne prétends pas être romancier, même si c'est vrai que voilà, quand on écrit sur la vie de quelqu'un, il y a sans doute des choses qu'il faut, pour lesquelles il faut faire preuve un peu d'imagination sans rien inventer. Et donc pourquoi ce livre ? Parce que c'est un personnage fascinant. Qui est pas très connu, hein, qu'on a connu souvent pour les plus âgés d'entre nous au moment de l'affaire Clearstream, donc il y a à peu près 20 ans maintenant, enfin 15-20 ans, et qui en fait a une vie incroyable, faite de mystères et de secrets, donc voilà, un maître espion comme le titre l'indique, et donc moi j'ai trouvé que ce personnage-là permettait de parler de beaucoup d'aspects de notre histoire contemporaine, du demi-siècle, on va dire, et même du siècle passé, puisqu'on en parlera sans doute, mais il est aussi question de son père et de son grand-père. Donc voilà, un personnage assez fascinant, dont l'histoire personnelle permet de raconter beaucoup de choses.
Et ce lapsus que j'ai fait, roman, il est très important, parce que finalement, ce livre, on le lit comme un roman. C'est-à-dire qu'on est tout de suite... Tu ne laisses pas le temps, on est plongé dans l'histoire tout de suite, hein, à travers l'histoire d'abord de son grand-père. On va voir ensuite l'influence qu'il a dans sa vie. Mais est-ce que toi, tu l'as pensé au moment de l'écrire comme un roman ?
Alors non, parce que c'est pas mon inclinaison naturelle. Moi, je suis professeur, je suis historien, et donc j'ai plutôt les historiens se méfient du roman. Même si dans ce cadre-là, alors c'est pas tant la dimension du roman que le fait de prendre le plaisir de raconter. Et c'est là que le roman ou la lecture de roman peut nous inspirer, dans le sens où il s'agit pas simplement de restituer des faits, mais de raconter une scène, de planter un décor, de mettre en scène des protagonistes. Et voilà, en restant dans le cadre, bien sûr, des faits qui se sont déroulés, des informations qu'on a, mais vraiment, c'est le récit qui rapproche du roman. Et dans ce cadre-là, je voudrais bien évidemment mentionner et remercier mon éditeur Timothée Guillotin, hein, qui a créé cette jeune maison d'édition Novice, qui est un des deux éditeurs. C'est lui qui a eu l'idée, qui est venu me trouver avec cette idée-là, le premier. Et il m'a toujours poussé à raconter davantage. Il me connaît un petit peu, il sait ce que je fais d'habitude, et il m'a dit bon, voilà, tu peux raconter un petit peu plus. Mon autre éditeur chez Nouveau Monde me disait, donne un peu des bonbons au lecteur, et les bonbons, c'est les petites anecdotes, c'est les choses un peu plus croustillantes, on va dire, et qui donnent ce côté tout à fait romanesque. Encore une fois, tout y était, j'ai juste eu à piocher pour raconter cette histoire-là.
Donc avant que ton éditeur ne vienne te voir, est-ce que c'était déjà un personnage qui te fascinait avant même de te lancer dans cette aventure ?
Je peux pas dire ça, non. Je pense que c'est un personnage. Voilà, je suis l'actualité depuis longtemps. Ça, c'est ce qui me nourrit aussi depuis tout jeune. Donc voilà, c'est un personnage dont j'avais entendu parler. J'ai toujours été très intéressé par les questions politiques. Je peux pas vraiment dire que le monde du renseignement m'était familier. Donc j'ai dû quelque part aussi m'initier et bien sûr faire appel à beaucoup de témoignages. Non, je pense, c'est pas un personnage, je pense, qui m'aurait intéressé naturellement. Bon, évidemment, les espaces dans lesquels il est intervenu, les époques qu'il a vécues m'intéressent. Mais voilà, j'avais pas d'affinité particulière ou de représentation particulière du personnage. Et vraiment, j'ai découvert beaucoup de choses sur lui en écrivant sur lui, au-delà de ce qui était, voilà, des quelques faits que je connaissais parce que je suis cette actualité.
Alors, pour résumer, hein, parce que j'imagine qu'il y a des auditeurs qui ne connaissent pas ce cher Philippe Rondeau, qui est-il ?
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Philippe Rondeau ? On peut dire que, il a cette particularité d'avoir été un peu à la croisée du monde militaire. Il a été formé à Saint-Cyr et aussi du monde du renseignement. Il a la particularité d'avoir été à la fois agent de l'ancêtre de la DGSE, c'est-à-dire le SDEC, donc les services extérieurs, et puis à la DST, donc aujourd'hui la DGSI. Donc il a cette particularité d'être passé dans ces deux services qui d'habitude sont plutôt des univers incompatibles. Il a aussi un petit peu fréquenté les milieux universitaires. Il a fait une thèse à un moment donné. Ça, c'est un peu pour définir le personnage. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il a joué un rôle très important dans la traque des terroristes, dans la lutte antiterroriste à partir du moment où la France a été confrontée au terrorisme, on va dire dans les années 80, et puis au début des années 2000. En particulier, il a été, son nom est sorti dans la presse un petit peu à ce moment-là, dans la traque de Carlos, le terroriste vénézuélien, qui entre les années, milieu des années 70 et début des années 90, voilà, était par certains côtés l'ennemi public numéro un en France. Donc lui, il a mené sa traque et puis il était le chercher au Soudan en 1994. Donc ça, c'est un de ses principaux faits d'armes. Et puis voilà, il était impliqué, dans toutes les affaires d'espionnage de la France des années 80 aux années 90 jusqu'au début des années 2000, que ça soit en Algérie, que ça soit en ex-Yougoslavie, dans la traque des criminels de guerre, plutôt avec un penchant sur le Moyen-Orient. On a vraiment quelqu'un qui, de par son histoire, est lié au Moyen-Orient en particulier.
Et donc, Philippe Rondeau, comment il opère ? Parce que c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, est très empreint de ce qu'on a d'Hollywood sur les espions, leur façon de faire, leurs habitus. Est-ce que Philippe Rondeau, finalement, c'est quelqu'un qui correspond à ça, de l'image de l'espion, peut-être même assez beau gosse, qui aime se montrer, qui veut être un peu une star même ?
Il y a à la fois oui et en même temps non. C'est-à-dire que les services français cultivent leurs différences et aiment se distinguer des services britanniques ou américains. Donc je pense qu'il y a une culture du renseignement différente. En même temps, cet univers, voilà, que tu évoques, des films, bien entendu, ça on le retrouve. Il y a des filatures, il faut passer inaperçu, il y a tout un jeu de séduction. Donc il y a effectivement ce côté, surtout dans la première partie de sa carrière, celle où il est membre du service action du SDEC. Donc il est sans arrêt sur le terrain, soit sous sa propre identité, avec une couverture qui est du coup très facile à valider, ou alors sous d'autres identités. Et là, bien entendu, on l'envoie parce qu'il est assez doué pour ça, pour aller collecter du renseignement, que ça soit donc au Moyen-Orient, où il a une certaine familiarité. On l'envoie aussi pendant 2 ans en Roumanie. Et ça, c'est un épisode sur lequel je développe de manière assez importante, parce que c'est un épisode assez important pour sa vie et sa carrière.
C'est un tournant pour sa carrière.
C'est sans doute un tournant, donc on y reviendra peut-être, effectivement. C'est un moment important parce que tout se passe pas comme prévu.
Vu qu'on est sur la Roumanie, qu'est-ce qui fait que la Roumanie, finalement, c'est si important pour lui, sachant qu'il y a une petite spécificité qui est un peu corrélée au rôle d'agent du SDEC, d'ancienne DGSE.
Alors, il est envoyé en Roumanie, on est au milieu des années 60, et en fait, on l'envoie parce que la Roumanie, c'est un pays, à l'époque communiste, c'est Ceausescu, que certains d'entre vous connaissent et dont certains se rappellent peut-être. Donc, c'est une dictature très, très importante, avec un degré de surveillance de la population très important. Donc, on envoie Philippe Rondeau là-bas, Il est assez jeune, il est plutôt au début de sa carrière et on l'envoie pour collecter du renseignement. Mais on sait très bien aussi qu'on l'envoie dans une position difficile, c'est-à-dire que les services roumains vont sans doute chercher à le déstabiliser, peut-être à le retourner. Et ça, c'est un jeu classique. Hein, j'utilise le terme de jeu parce que c'est vraiment ça qui se passe. Et pour documenter cet aspect-là, j'ai eu accès à son dossier de surveillance par les services roumains, où on a 400 pages de filature, et donc on voit le moindre de ses faits et gestes. Et donc, on sait de manière certaine qu'il y a eu plusieurs tentatives pour le déstabiliser. Alors, comment ça se passe quand on veut déstabiliser un agent à l'époque, et sans doute c'est encore vrai aujourd'hui, on repère ses points faibles. Donc pour certains, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est l'ego. On va flatter leur ego. On va les mettre dans une situation où ils vont se sentir mis en valeur. Pour d'autres, ça peut être le sexe. Et sans doute, pour Rondo, c'est la faiblesse qu'ils vont identifier. Alors, je m'avance prudemment sur ce terrain-là. Hein. J'ai pas de preuve ultime de ça, mais en croisant les témoignages, en croisant les éléments de son dossier, on voit quand même que la Securitate et les services roumains vont tenter par deux fois de lui mettre une jeune agente dans les pattes pour ensuite filmer tout ça et le faire chanter auprès de son service d'origine, peut-être auprès de sa famille, afin qu'il puisse travailler pour les services roumains. Donc voilà, on n'a pas de certitude absolue sur ce qui se passe réellement, mais on a quand même, en recoupant les sources, on sait avec quasi certitude que cette première partie de l'opération a réussi. Faire une rencontre improbable entre Philippe Rondeau et une jeune agente roumaine. Il se passe ce qui peut se passer pendant plusieurs jours. Et puis ensuite, on lui présente des preuves de tout ça. Les services roumains lui présentent des preuves. Là, visiblement, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'on sait que Rondeau n'a pas travaillé pour les services roumains. Mais en tout cas, là où c'est un tournant dans sa vie, c'est que cet événement-là, il disparaît pendant quelques heures, sans doute. Plusieurs jours, même deux, trois jours. On n'a pas de chiffres précis, mais on sait qu'il disparaît, que ses supérieurs ne savent pas où il est, sans doute en lien avec cette tentative, et que par la suite, on va, mais 10 ans plus tard, on va reprendre son dossier, et on va lui demander, là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as fait, on va le cuisiner, hein, ça ne se fait pas de manière gentillette à l'époque dans le SDEC, et on voit qu'il n'a rien fait, qu'il n'a pas trahi la France, mais il a créé un doute au-delà du raisonnable. Donc, il est exclu des services extérieurs français 10 ans plus tard. Et c'est à partir de ce moment-là, et c'est important pour la suite, qu'il va commencer à noter tout ce qu'il fait dans des petits carnets, quelque chose que faisait déjà son père avant lui.
Et on va parler de son père qui peut-être lui a montré le chemin, tout comme D-Smoke montre le chemin à Tobin Wigwe dans « Find My Way ».
Slow creep, quota for the week, say we vibing. Till we find a sweet lick on the free tip. MC Hammer for the defense, heat by my side. It's barely 7:30 and the sun climbing over the east side horizon. With suit and tie, I'm headed to the biggest stage I ever engaged in the classroom. I lead with passion, still I'm a tyrant. Spanish teacher be boxing and beating up on these beats. Better students say no, got the heat up under the seat. Cause he traveled through 5 different hoods between his commute. Light a fire, inspire, then write, record, and repeat. I'd be damned if a hater stop me from doing the Lord's work. Niggas be banging the turf as if this is your dirt. Me and my heater, two polar opposite titans. One of us ain't about nothing, the other one black and white.
I'm just riding, trying to find my way again. Yes, sir. I can't deny it. No, 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 no.
trying to find my way again. I'm trying to find my way.
Look, before I got kudos from Dave Chappelle, I cop used clothes, pulled hoes, and gave them hell. I was thrifting, spending money I didn't have. I was tripping, knew I was gifted, but somehow all the gab that I utilized to get between them thighs left me hollow. Tough to lead those who conceive when you don't follow your creator. But it got greater later, I was in my beta, a chaser of flavors I could savor. My behavior to be a player was never in my nature. It was nurtured and catered to as a favor by neighbors who were fakers of love that dwelled in the ghetto. And then I met Fat, who cracked the code to get all them devils above me. I can't lie, I resisted. I told her she wasn't the one, she dismissed it. But her persistence led to both of us beautifully vibing, and my commitment level rising. But low-key, I was just riding. You feel me?
Trying to find my way again.
Yeah.
I can't deny it, no, 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 no. Trying to find my way again. Said I'm trying to find my way.
Eyes to the sky like I'm supposed to. Only holding on to a close few. In the old school with the leather insides. Let's ride.
Sliding. Never would I thought, even when I'm caught up, there'll still be no arriving. Realty, my portfolio building as I'm driving. I see through the lens of investor. I'm bored with this game, you can't check us. Your girl with the fame, she can't stretch us. No, sir, I got pain on my record. That stainless stay dangerous, can't blame us. The trauma endured made me conscious and pure. Still, I find myself riding, sliding, dipping through the streets at a slow creep. Quarter for the week, said we vibing. Till we find a sweet lick on the free tip. MC Hammer for the defense, heat by my side. Bella 730 and the sun climbing over the east side horizon. With suit and tie, I'm headed to the biggest stage I ever engaged in. The classroom, my liquid passion, still I'm a tavern.
13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Et on est toujours en direct sur RCN 90.7. On vient d'écouter Find My Way de D-Smoke, Tobin Wigwe et BG de Chicago Kid. Et on est avec Étienne Augry qui a écrit cette belle biographie de Philippe Rondeau. Pour ceux qui nous suivent là sur YouTube, regardez, voilà, il est là ce livre, Philippe Rondeau, Maître Espion. Voilà, n'hésitez pas. Où est-ce qu'on peut se le procurer, ce livre ?
Dans toutes les bonnes librairies et de préférence en librairie, j'insiste là-dessus. Mmh. Voilà, donc à Nancy, voilà, le hall du livre, l'autre rive, voilà.
Voilà pour les Nancy,
et s'il n'y est pas, on peut le commander, ça va très très vite. Mmh. Et c'est beaucoup mieux que d'acheter... à droite, à gauche, en ligne.
Voilà, bon, donc pour les Nancéiens et pour les non-Nancéiens, ça vous fera une occasion de venir à Nancy. Voilà, pour...
Et on le trouve un peu partout, évidemment, dans d'autres librairies, voilà, ouais. Ailleurs.
Ailleurs, très très bien. Bon, Philippe Rondeau, on a écouté Find My Way, je parlais de trouver son chemin, même si le rap, c'est une passion que tu as, on y reviendra après. Philippe Rondeau, lui, comment il a trouvé son chemin, alors? Tu commences le livre en parlant beaucoup de son grand-père, puis de son père. Quelle a été l'importance de ces deux personnages dans sa trajectoire ?
Alors, je pense que Philippe Rondeau n'est pas différent d'autres personnes voilà, de ce point de vue-là. Et pour moi, c'était assez logique voilà, de suivre un peu la chronologie, même si le livre n'est pas organisé que sur le plan chronologique. Mais en faisant des recherches, voilà, j'ai mesuré aussi l'importance qu'ont joué ces deux personnages à la fois sur un plan personnel, mais aussi dans sa formation, dans l'univers dans lequel il a grandi. Son père, si on parle de son père avant de son grand-père, son père, il a joué à la fois un rôle très important, mais en même temps, il était assez peu présent. Hein, parce qu'il était lui-même voilà, en poste souvent à l'étranger quand le jeune Philippe Rondeau était soit dans, en Lorraine, dans les Vosges, où il a un petit peu grandi, ou en Bourgogne. Donc voilà, il a joué un rôle important et on pourra revenir ensuite. Et le grand-père, justement, il a passé beaucoup de temps avec lui, peut-être dans ses jeunes années où il était avec sa mère, donc chez son grand-père maternel, puisqu'on parle d'Henri Fradet qui était son grand-père maternel. Et c'est quelqu'un qui est plutôt lié à l'histoire de la Première Guerre mondiale, qui est né dans la région, qui est né du côté de Toul et qui a vécu un petit peu à Nancy. Et donc, sans doute, il a reçu de ce grand-père voilà, tout cet héritage des combats de la guerre 14-18, pour lesquels il avait un côté assez exemplaire. Il était aussi très sportif.
C'était un champion.
C'était un champion gymnastique, cycliste. Il a fait partie d'un peloton cycliste pendant la Première Guerre mondiale. Il était assez doué pour ça. Et on sait que le sport, c'était aussi important pour Philippe Rondeau, à la fois dans sa formation à Saint-Cyr, quand même quelque chose d'important. Et puis ensuite, au service action, on parle quand même de gars qui doivent être, de fait, mener des missions très compliquées, avec un entraînement physique très important. Donc, il a grandi entre ces deux personnages-là, avec lesquels il a pu avoir des petits soucis ou des petites différences, parce que le point commun de ces deux personnages-là, le grand-père et le père, c'est qu'à un moment donné, ils se sont remariés à une femme beaucoup plus jeune.
Ce qui a posé des problèmes dans la famille.
Ce qui a pu compliquer les relations entre les générations. Il y a eu des enfants qui sont nés de ces mariages. Donc, en fait, par exemple, je sais pas, Philippe Rondeau a une tante qui est plus jeune que lui. Et sans doute, Philippe Rondeau en a un petit peu voulu à son père et à son grand-père des situations que ça pouvait créer. Alors voilà, il ne s'agit pas de dire que ça a joué un rôle important, mais c'est vrai qu'en découvrant l'histoire de cette famille, c'est quelque chose qui m'a frappé, voilà, les tensions que ça pouvait créer et sans doute l'impact que ça pouvait avoir sur Philippe Rondeau. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que Philippe Rondeau était fils unique, que ses parents ont eu du mal à avoir un enfant.
Liban, ils avaient essayé plusieurs fois déjà.
Ses parents se sont rencontrés au Liban, c'est-à-dire que le grand-père dont on a parlé était en poste au Liban à la fin de sa carrière. Et puis Pierre Rondeau, donc le père, jeune Saint-Cyrien, était en poste fin des années 20, début des années 30, à l'époque où la France avait la possession de la Syrie et du Liban. À la même époque, on avait Charles de Gaulle qui était là aussi dans le coin. Et donc, les hommes, ces trois personnages-là se sont connus. Donc, les parents de Philippe Rondeau se connaissent et se marient au Liban en 1930. Mais il y a plusieurs grossesses qui n'aboutissent pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle Philippe Rondeau naît à Nancy, à la maternité toute récente de Nancy, que vous connaissez peut-être. Parce que on veut qu'il naisse, que sa maman accouche dans de bonnes conditions, avec un bon suivi. Donc, c'est pour ça que le couple rentre en Lorraine. Le père est en poste à Épinal, un régiment de tirailleurs. Et puis, Philippe Rondeau naît à Nancy en octobre 1936.
Alors, quand un Nancéien comme nous. Et alors, il a vécu une enfance plutôt dans un milieu un peu privilégié. Il était. Son père. Tu raconteras mieux que moi.
Oui, alors c'est privilégié, oui et non. C'est-à-dire que c'est pas non plus en tout cas il a pas de difficultés de privation. C'est un milieu très très militaire. On l'a dit. Du côté du père, c'est des Saint-Cyriens depuis plusieurs générations déjà. C'est des officiers, des officiers. Du côté de la maman aussi, voilà. Donc il baigne dans cet univers plutôt militaire. Des officiers, donc voilà, il a l'habitude aussi que à la maison, même si les enfants parlent pas à table, il y a quand même des bonnes tablées avec des gens qui ont des rôles importants et qui sont plutôt, je dirais, c'est plutôt un milieu militaire cultivé, non pas que les militaires soient d'habitude non cultivés, c'est pas ça que je veux dire, mais là on est plutôt dans un profil, son père, et ça c'est important pour comprendre Philippe Rondeau. C'est un militaire, mais qui va toujours chercher à bien comprendre les situations dans lesquelles il est placé, en particulier au Liban. Il est lui aussi dans le service de renseignement à l'époque du mandat. Donc, il développe par exemple des affinités avec les populations kurdes du Liban. Et il va jusqu'à apprendre le kurde, aider au développement des premiers alphabets kurdes, écrire une grammaire, un dictionnaire kurde. Donc voilà, on est plutôt dans ce genre d'atmosphère militaire, mais avec ce penchant pour une soif de connaissance très importante. Et ça, on va le retrouver chez Philippe Rondeau. Cette idée qu'on n'est pas juste là pour appliquer des ordres, mais on veut, quel que soit le terrain où on est, on va développer une vraie connaissance du milieu dans lequel on est, et en particulier des populations. Et ça, c'est très important.
Et c'est peut-être aussi ce qui fait sa force, Philippe Rondeau, cette capacité d'adaptation à ses différents interlocuteurs et aussi une connaissance, en fait, de ses dossiers. Alors, finalement, est-ce que son père et son grand-père ne se complètent pas dans les profils? Parce qu'il y a le grand-père qui est plutôt, on l'a dit, athlète, sportif. Hein, il est écrit, fait quoi, 1m70, mais c'est...
Il n'est pas très grand, mais...
Voilà, c'est une force.
Très musclé, très sportif, voilà. Oui, sans doute.
Et son père qui est plus tacticien, plus... Mm-hmm. D'ailleurs, ça se ressent hein, dans ses notes. Son père est plutôt quelqu'un de fin, d'analyste, mais qui a des lacunes en sport.
C'est ça, oui. Alors, tu fais référence effectivement au fait que dans ses notes, hein, aussi bien à Saint-Cyr qu'ensuite, c'est comme partout, les supérieurs... Je ne sais pas si c'est le cas à RCN, mais en tout cas, nous, c'est les supérieures notes tout le monde. Et on voit effectivement, c'est intéressant que ces officiers, enfin ces supérieurs, donc on parle de Pierre Rondeau, le père, il voit toutes ses qualités, mais ils sont un petit peu déçus par le fait que ça reste quand même un intellectuel et quelqu'un qui est très très doué pour comprendre les situations, pour le renseignement. Mais peut-être que d'un point de vue purement opérationnel, purement militaire, il lui manque un petit quelque chose. Alors, Philippe Rondeau, peut-être ce sera moins le cas. Hein, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus dans l'action par opposition à son père, même si son père a aussi, lui, a participé à la Seconde Guerre mondiale. Il a été blessé à plusieurs reprises. Et bien sûr, c'était aussi un soldat. Mais effectivement, on voit ces différents aspects que certains militaires vont développer plutôt que d'autres.
Et donc, alors, je ne vais pas tout spoiler, mais il y a un lien avec De Gaulle qui est expliqué dans l'histoire que voilà.
Il y a plusieurs liens avec De Gaulle à deux moments. Donc, au Liban, effectivement, parce qu'ils se connaissent, ils font connaissance au Liban. Hein, donc, au début, tout début des années 30. Et puis ensuite, donc le grand-père, effectivement, de nouveau est en relation avec De Gaulle à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque des maquis. On va laisser découvrir. Mais il y a des mystères toujours non résolus qui sont... On parlait de la famille tout à l'heure, qui sont des petites choses qui créent des tensions, j'ai envie de dire jusqu'à aujourd'hui dans la famille, sur des lettres de De Gaulle écrites au grand-père, etc. Des documents dont on ne sait pas trop bien ce qu'ils sont devenus. Des petits secrets qui sont liés, comme partout, à ce qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Des choses qu'on ne veut pas forcément mettre en avant. Il y a des mystères qui restent à résoudre.
Et en tout cas, cet épisode-là avec De Gaulle, il en dit long sur... la mentalité du grand-père, sur sa psychologie et sur plein de choses comme ça. On comprend un peu le personnage aussi à travers cette histoire-là.
Et on comprend aussi que finalement, on est dans une famille qui plutôt gaulliste, au sens... Alors, à la fois au sens politique, mais aussi au sens d'un lien personnel, pour beaucoup de gaullistes, peut être lié à la Seconde Guerre mondiale, mais qui, là, existe déjà avant. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi chez Philippe Rondeau, cet attachement à l'action du général de Gaulle, et en particulier dans le lien... que De Gaulle cherche à développer avec le monde arabe, en particulier après 67. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans la famille et qui peut expliquer aussi des tournants importants dans la carrière de Philippe Rondeau.
Puisqu'on est sur la psychologie, il est comment ce Philippe Rondeau ? Donc, on parlait tout à l'heure des espions qui sont un peu en avant-garde. Lui, il me semble que c'est plutôt quelqu'un de discret, qui ne cherche pas trop la lumière.
Il cherche pas du tout la lumière. Donc quand la lumière va venir sur lui, ça va un peu l'aveugler. Et effectivement, il le vit très très mal. Donc au moment de l'affaire Kerstrim, il vit très mal cette exposition.
C'est le moment où il part, quoi, en plus.
C'est son départ en retraite. Ça coïncide avec son départ en retraite. Et effectivement, il est très malheureux dans cette situation. Il aurait pu avoir, les moments où il aurait pu avoir un peu récolter les fruits de son engagement. Je pense en particulier à l'arrestation de Carlos en 1994. C'est pas lui qui va faire la conférence de presse, c'est Charles Pasqua qui est ministre de l'Intérieur, qui effectivement a joué un rôle. Mais il ne recherche pas cette mise en avant, il reste discret. C'est pas un bavard, et en ce sens-là, il colle tout à fait avec la mission qui est la sienne. Officier de renseignement, on n'est pas là pour crier sur tous les toits ce qu'on fait. Et ça lui va très bien. En même temps, on parlait tout à l'heure du fait qu'il écrive. Ça, on n'est pas censé le faire quand on est officier de renseignement. On n'est pas censé noter tout. On est censé ne pas laisser de traces.
De traces, oui, bien sûr.
Donc, c'est à la fois J'ai envie de dire, c'est bien qu'il l'ait fait, parce que sans ça, nous, les historiens, on serait bien embêtés pour raconter cette histoire. Et puis, comme ces carnets ont été saisis par la justice au moment de l'affaire Clearstream, ça a permis de donner un éclairage à beaucoup d'affaires des années 90 et du début des années 2000. Donc, c'est vrai que ça cadre pas bien avec le secret défense, mais pour nous, historiens, c'est vraiment très, très intéressant.
C'est une mine d'or. Là, on est sur le sujet, justement, de l'accès à l'information, aux documents. Comment ça s'est passé? Comment tu as travaillé pour pouvoir... Parce que, je vous le dis, chers auditeurs, il y a vraiment du croustillant, il y a des anecdotes. On a l'impression, limite, que tu as eu accès à des secrets. Enfin, comment t'as travaillé?
Alors, je sais pas si j'ai eu accès à des secrets. J'ai travaillé beaucoup avec des choses qui avaient déjà été explorées, qui étaient un peu éparses ici ou là. Les carnets en particulier de Philippe Rondeau, au moment de l'affaire Clearstream, dans fin des années 2000, début des années 2010, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Donc ça, c'est des choses qui sont un premier élément. Tout mon travail à moi, c'est de croiser toutes ces sources-là et de les mettre en regard, de les confronter à d'autres sources, pour le coup inédites, auxquels moi j'ai pu avoir accès. Donc ça peut être des témoignages, et j'ai été assez chanceux au niveau de l'accès à des témoignages, pas forcément sur tous les aspects de sa carrière, pas forcément sur toutes les périodes, c'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles les gens sont plus ou moins bavards. Donc typiquement, son passage au service action du SDEC, là c'est compliqué parce que c'est des opérations, on parle d'aller tuer quelqu'un qui est considéré comme un ennemi de la France, donc là forcément il n'y a pas d'archives et les gens, les anciens agents n'en parlent pas. Mais par contre, des témoins peuvent me raconter comment ça se passe de manière générale, préparer une opération, et là ils pouvaient me dire, voilà, Philippe Rondeau, ça, il savait faire, il était très doué pour ça, et voilà sa spécialité. Donc ça, c'est plus compliqué. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui étaient avec lui quand il était à Saint-Cyr, puis ensuite aussi en Algérie, c'est-à-dire qu'il a fait son service en Algérie immédiatement après Saint-Cyr. Et là, j'ai eu pas mal de témoignages, y compris son supérieur hiérarchique direct, qui est un vieux monsieur de plus de 90 ans, mais qui a gardé un souvenir très, très net et très vif de cette période-là, qui vit à Strasbourg, un monsieur qui était adjoint au maire de Strasbourg pendant plusieurs années, et qui m'a montré beaucoup de photographies, qui m'a raconté beaucoup de choses sur son service en Algérie. Donc voilà, en fait, il y a des choses pour lesquelles j'avais beaucoup d'informations, que ça soit des archives, que ça soit des témoignages, que ça soit des photographies, d'autres pour lesquelles c'était plus compliqué. Mais c'est vrai que les témoignages ont souvent permis de débloquer ou de mettre en contexte des choses intéressantes. Après, il y a des archives, bien sûr, qui existent, qui n'avaient pas encore été exploitées. On parlait tout à l'heure du père et du grand-père. Il y a beaucoup de choses qui concernent le père, qui sont soit aux archives militaires à Vincennes, soit aux archives nationales à Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis. Donc il y a pas mal de choses qui sont accessibles plus ou moins facilement, sous dérogation, une fois qu'on justifie de notre intention. Et je dirais que le fait d'être historien, c'est plutôt un avantage. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont côtoyé Philippe Rondeau, qui peut-être n'ont pas envie de parler à des journalistes, à des personnes dont elles ne perçoivent pas très bien les intentions. Le fait d'être historien, peut-être le fait que je sois d'une génération plus récente, j'ose pas employer le mot jeune à mon propos, mais voilà,
oh, je suis aussi, on peut parler
un peu
de jeunesse,
un peu plus jeune que mes témoins, ça rassure quelque part. Mon but en écrivant ce livre, c'est de donner des informations aux personnes, des personnes qui aiment Philippe Rondeau et qui peut-être le considère comme quelqu'un, un héros quelque
un
part,
modèle.
D'autres personnes qui peut-être ne le supportent pas ou qui considèrent qu'il a fait des choses inadmissibles, et c'est pas mon travail de vous dire à vous lecteurs quoi penser. Et les retours que j'ai eu depuis, c'est que précisément des gens qui sont tout à fait dans cet univers du renseignement militaire me disent que j'ai fait du bon travail, et puis des personnes qui sont dont c'est pas l'univers me disent on a des éléments importants. Et ça, c'est tout l'importance de ce que tu évoquais, c'est-à-dire le travail sur les sources, et sur le croisement des sources et des dossiers. Un dernier élément que je peux apporter par rapport à ce que tu dis, c'est que voilà, parfois il y a des bonnes surprises. Et la bonne surprise, là, c'était les archives roumaines. La mauvaise surprise, c'est que c'était vraiment au moment où on était déjà dans le bouclage du bouquin, donc il a fallu repousser un peu la publication. Il a fallu surtout que je me mette un peu au roumain, parce que je peux pas dire que je comprenne le roumain. Alors c'est une langue qui, à l'écrit, on comprend un petit peu. C'est quand même assez proche
de l'italien, non, il me semble.
Ouais, ça ressemble un peu à l'italien. Et puis voilà, si on comprend un petit peu, voilà, c'est pas non plus impossible, mais bien sûr, si on veut faire du travail sérieux, donc j'ai fait appel à différentes personnes que je remercie beaucoup, en partie, alors je vais les citer, Timé Adiediu et puis Johanna, qui m'ont aidé à traduire, à repérer ce qui pouvait, dans ces 400 pages, hein, 400 pages c'est énorme, 400 pages de filature, ce qui pouvait m'aider à reconstituer les faits, et ça m'a beaucoup servi, toute cette description minutieuse, minute par minute, de ce que fait Rondeau pendant 2 ans, entre 68 et 68, il rentre dans un magasin, quel est le nom du magasin, quelle est la couleur de l'objet qu'il a acheté, la couleur de sa voiture, qu'est-ce qu'il dit, enfin voilà, toutes ces choses-là sont consciencieusement notées, là aussi on peut se dire c'est quand même fou et incroyable, mais c'est très intéressant pour l'historien, évidemment.
Ça, là, on a l'impression que tu as le script de sa vie, quoi. Tu es nourri d'informations. Moi, je reviens encore sur un aspect, moi, qui m'a plu et qui m'a marqué, c'est aussi le travail sur son père. Le travail sur comprendre son père, le contextualiser, etc. Et finalement, on se demande, est-ce que ça n'aurait pas pu être le livre de la biographie de Philippe Rondeau et son père, et de Pierre Rondeau.
Tu crois pas si bien dire, ça aurait pu être le cas. Quand on a commencé à construire un petit peu la structure du livre avec mon éditeur, on a échangé pas mal là-dessus, parce que justement, il y avait une masse d'informations considérable sur le père, et bien sûr plus accessible, parce qu'on parle d'une période plus ancienne, même si son père est mort en 2000, donc c'est des périodes assez récentes.
Assez récentes, oui, bien sûr.
Mais sur toute la partie de sa carrière où il est au Liban, en Syrie, et puis par la suite, il joue un rôle. En fait, il a joué un rôle, il donnait des cours à Sciences Po, il donnait des cours à l'ENA, il donnait des cours dans un centre d'études musulmanes, c'était comme ça que c'était appelé à l'époque. Donc en fait, je me suis rendu compte et jusqu'à aujourd'hui, je crois souvent des gens dans des salons, dans des dédicaces, qui me disent « Ah, mais j'ai suivi les cours de Pierre Rondeau quand j'étais à Sciences Po, quand j'étais à l'université, enfin à Sciences Po Lyon, par etc. » Donc, en fait, il a eu un rôle important de formation de beaucoup de militaires, beaucoup de fonctionnaires français, diplomates, qui devaient partir au Moyen-Orient, en particulier Syrie, Liban, Irak, Jordanie, Égypte. Donc, il a eu un rôle important de formation de ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi, je me suis dit, c'est cette histoire de la relation du père et du fils, elle est très importante. Ils ont un lien à la fois, comme je disais tout à l'heure, très, très proche. Et puis, on a fait le choix, finalement, de centrer davantage sur le fils. Mais la vie du père, elle comporte aussi ses zones d'ombre. Il a travaillé aussi pour les renseignements. À un moment donné, il était plus du côté universitaire, mais... Dans son dossier aux archives à Vincennes, moi, je constatais qu'il envoyait régulièrement des rapports au ministre de la Défense. Voilà. Dès qu'il même quand il était en retraite, il faisait un voyage, je ne sais pas, en Algérie, au Liban. Et hop, un petit rapport au ministre de la Défense. J'ai rencontré telle personne, j'ai vu ça. Donc voilà, on a ce genre de personnages absolument fascinants qui ont une extraordinaire curiosité et une volonté de compréhension. Alors évidemment, je ne voudrais pas non plus parler de ça sans dire que c'est aussi un homme de son temps, Pierre Rondeau, qui participe aussi, et Philippe Rondeau aussi, à la colonisation. On est aussi dans ce cadre-là, et j'ai envie de dire, il fait pas exception, même si cette soif de connaissance, cette curiosité, sans doute, lui a donné une ouverture un peu plus importante. Mais Philippe Rondeau, voilà, il combat en Algérie et voilà, ils sont déterminés à garder l'Algérie française alors qu'on est en 60-61, c'est déjà quasiment fini. La promotion Saint-Cyr dont il fait partie s'intitule Bugeaud, ce qui est quand même incroyable.
Est-ce qu'on peut rappeler brièvement l'histoire de
Bugeaud? C'est le conquérant de l'Algérie, donc dans les années 1830-1840 surtout. À l'époque de notre ami le sergent Blandan,
dont on a parlé
qu'on a déjà évoqué ici. Donc ça veut dire que au moment où le monde entier, l'Afrique du Nord est en plein processus de décolonisation, on nomme une promotion d'officier supérieur qui va aller combattre en Algérie, Bugeaud. Symboliquement, c'est quand même pas rien. Bon, pour moi, c'est un anachronisme, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Et là où c'est dramatique, c'est que ces jeunes-là, on les envoie au casse-pipe, en fait. On les envoie alors qu'on sait très bien que c'est un combat d'arrière-garde. Et donc, le fils, à ce moment-là, et bien sûr, le père, à l'époque du mandat, donc dans les années 30, et puis aussi dans les années 40 et suivantes, il est aussi dans ce contexte colonial, avec les ambiguïtés que ça peut impliquer, bien sûr.
Et on parle donc du père et de son fils, de transmission, et ça fait lien avec Youssoupha, qui parle, lui, des disques de son père.
Pitié, toi, mon amour, pitié. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur.
Pour Maillet Musique,
pitié, toi,
Rumba Session.
Pitié, toi,
ça, c'est pas du rap de rue,
je
c'est du rap d'amour.
Nuit et jour pour ton One seul love. Bonheur.
Le lyriciste Pantou. Julien m'a dit ça, volume co.
Si tôt le matin, je me réveille.
Et quand je me lève, la vie est moins amère. Hier j'ai fait un rêve, j'ai vu ta grand-mère. Elle c'est mon amour, le seul véritable. J'espère te léguer sa bravoure en héritage. Tu es venu au monde et tout est devenu magique. Le bonheur a un nom, le mien je l'ai appelé Malik. Tellement de crainte, ta vie est une offrande. Quand ta mère est enceinte, c'est moi qui ai mal au ventre. Papa était un thug, des flammes dans la rétine. Il a rejoint le club des peluches et des tétines. Fini le baby blues, mettrai sur ton portrait mon cœur qui fait boum. Désormais je me sens prêt, alors je te
pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur.
Et quand je rentre le soir, que la vie me fait morfler. Il est déjà tard, tu es dans les bras de Morphée. Ce monde me brise, je ne suis pas infaillible. Et c'est pas le showbiz qui fait les bons pères de famille. Hip-hop ma enquête, malgré les offenses. Je veux pas que le rap game te vole ton enfance. Bizarre la roue tourne, si tu manques de repères. Tu me reprocheras un jour ce que je reproche à mon père. Et ton grand-père te dira qu'on porte son visage. Il t'a appelé Madiba comme ceux de son village. Dans notre culture, les mots d'amour sont rares. J'ai appris à l'usure qu'on avait tort d'en être avare. Alors laisse-moi te dire tout ce que je t'aime. Même si ce n'est qu'un disque et que j'ai samplé ce thème. Une place dans ton cœur, j'aimerais y être d'emblée. J'aurais toujours peur si tu me laisses pas y entrer. Alors je te chante.
Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur.
Mesdames et messieurs, le seigneur Taboulet Rochereau.
Si tôt le matin, je me réveille.
C'est ça même.
Devant ta photo, je me recueille. Je sors sans déjeuner.
Chante papa, chante ça.
Je pars pour travailler.
Celle-là c'est pour Malik avec tout mon amour de la part de Dali.
Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'importe le temps, tant que je t'aime.
Dis-leur.
Le soir, je vais revenir.
C'est ça, ben.
Je fais ton avenir.
On vous l'avait dit, c'est pas du rap de rue, c'est du rap d'amour. Chante papa, chante seulement.
Pitié, toi mon amour. Pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur.
Rumba Old School Session. Laisse tourner le son, laisse tourner le son.
Pitié, toi mon amour. Pitié, toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié.
Boire, désir, c'est l'album.
Pitié.
On vous avait dit que ça allait digesté. Alors gestons. Yeah.
Pitié.
Ok.
Pitié.
Papa Yemba. Papa Yemba. Papa Yemba.
Pitié.
Chante seulement. Chante seulement.
Pitié.
Ok.
Pitié. Pitié.
C'est Noir Désir l'album. Prince parolier le lyriciste Pente Youssoupha. Vous avez dit que ce sample il allait gester.
Je joue pour ton seul bonheur.
Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN.
Et ce crépitement là, ce crépitement de vinyle, hein, des disques de rumba, ce sample de Youssoupha qui parle des disques de son père Youssoupha qu'on adore. Et donc on est sur RCN 90.7. Si vous nous rejoignez, on parle de Philippe Rondeau, Maître Espion, la biographie d'Étienne Augry. Étienne, bah, j'ai mis ce morceau parce que c'est aussi l'un de tes morceaux préférés, je ne savais pas.
De Youssoupha, en tout cas, c'est un morceau que je peux passer en boucle. Et puis c'est vrai, comme le dit Youssoupha, ce sample, il a bien gesté, quoi. En fait, il y a tellement, ce qu'on disait, il y a tellement de choses. Alors, c'est une histoire familiale intéressante, complexe, mais c'est aussi un morceau qui résume toutes ces circulations entre l'Europe, l'Afrique centrale avec le Congo ici, et puis les Caraïbes et New York. Voilà, c'est le hip-hop est né à New York, mais est né de ces circulations-là. Et donc, Taboulé Rochereau qu'on entend en arrière-plan, c'est aussi cette musique, la rumba, qui est née, la rumba congolaise, qui a pris son essor donc dans le Congo avant l'indépendance et après, mais qui est née aussi de ces circulations transatlantiques entre l'Espagne, Cuba. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de fils à tirer dans cette musique. Et puis, indépendamment de ça, on peut l'écouter aussi parce que c'est un morceau magnifique qui nous porte.
Et puis, comme tous les samples, ça nous ramène aussi au morceau d'origine qu'on peut aussi écouter sans fin. Donc là, on parlait donc de la filiation, hein, des rapports père-fils. En dehors de ça, qu'est-ce qui t'as le plus surpris ou fasciné chez Philippe Rondeau? Est-ce qu'il y a un aspect de sa personnalité ou un passage de son histoire qui, toi, t'a marqué?
Ça, c'est une question difficile. Moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est peut-être les moments où on pourrait dire que ça s'est pas bien passé pour lui, où il a échoué, on pourrait presque dire ça. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant à explorer dans un personnage tel que Philippe Rondeau, c'est-à-dire qu'on attend de ces personnes-là qu'elles soient parfaites, qu'elles commettent pas d'erreurs, et puis ça c'est quand même compliqué, c'est impossible. Alors soit dans l'action, soit des erreurs d'analyse. Et moi ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'histoire de Philippe Rondeau, c'est le lien particulier, donc on l'a dit, au monde arabe, mais en particulier à l'Algérie. Voilà, un pays dont l'histoire m'intéresse beaucoup aussi parce qu'elle est très liée à notre histoire ici en France et en particulier à Nancy. Et je trouve que l'Algérie revient régulièrement un petit peu quelque chose, un fil conducteur, ou peut-être finalement Philippe Rondeau, on parlait de son service en Algérie, ben finalement les Français sont obligés de partir. Et en fait, il revient en Algérie dans les années 90, au moment de l'enlèvement des moines de Tibérine. Et puis, il a bon espoir qu'il va pouvoir trouver les bonnes clés. D'autant plus qu'il connaît très bien un des principaux personnages des renseignements algériens, contre lequel il a combattu. Il l'a eu dans son viseur, il l'a pris en photo à ce moment-là. Mais finalement, non, il est tombé sur plus fort que lui. Et je suis désolé de le dire dans ce contexte-là. Finalement, on voit les faiblesses, on voit l'humanité du personnage. Parfois, parce que on pense qu'on sait, et puis des fois, on peut se tromper. Et en même temps, les personnes avec qui j'ai pu échanger sur Philippe Rondeau reconnaissent son talent incroyable, sa mémoire exceptionnelle et son absence de peur du danger. Son lieutenant en Algérie me disait, en fait, il n'avait pas peur d'aller au feu, il avait une baraque incroyable, et donc il avait cette capacité-là à ne pas avoir peur. Il a frôlé la mort à plusieurs reprises, mais en même temps, ça ne marche pas toujours comme on veut, et puis parfois... on a des petites faiblesses. Donc ça, cette dimension-là m'intéresse beaucoup chez les personnages. Je pense que j'ai une certaine... Je parle pas forcément de Philippe Rondeau, mais je pense que j'ai un certain attrait pour les personnages qui incarnent quelque chose de plutôt négatif ou quelque chose de plutôt...
Dans le gris, un peu, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Dans le gris ou carrément dans l'obscur, dans le sombre, mais d'essayer de comprendre peut-être pourquoi, d'où ça vient et justement quelles sont les zones grises qui peuvent nous donner des portes d'entrée dans les personnages.
Finalement, tu vas chercher un peu l'humanité et les failles de l'humanité, en fait, chez ces personnes-là.
D'une certaine manière. Je pense que j'ai une certaine fascination aussi pour, voilà, c'est je dirais pas le mal, mais en tout cas les aspects les plus sombres de notre histoire. Il y a des gens que des fois qui me disent « Non mais Étienne, arrête là avec tes histoires là, de massacres et tout ça. » Mais moi, je trouve que c'est intéressant à la fois parce que je pense que c'est important. C'est important de comprendre. Ça veut pas dire que on va pouvoir forcément... justifier et essayer d'éviter que ça se reproduise. Je pense que malheureusement, on a du mal à apprendre de nos erreurs. Mais c'est important moins ça paraît clair, plus il faut qu'on aille voir et moins il faut qu'on laisse les choses sous le tapis. Et ça, je le vois, bien sûr. Moi, j'enseigne en lycée et un petit peu à Sciences Po. Je vois combien c'est important pour notre société et pour nos jeunes de pas faire comme si ça n'existait pas. Il faut vraiment que les choses soient dites, que cette histoire qui est la nôtre, avec ses zones d'ombre et de lumière, pour reprendre ce qu'on dit tout à l'heure, il faut qu'on essaie de d'éclaircir tout ça et de se mettre autour d'une table et d'en discuter et de comprendre.
Ouais, parce que finalement, mettre les choses sous le tapis, c'est parfois ce qui va attiser une forme de ressentiments, même nourrir des théories complotistes ou alors créer une forme, oui, d'injustice ou en tout cas de sentiment d'injustice.
Oui, je pense que comme tu dis, mettre sous le tapis, ça va créer du malaise. Il y a forcément un moment donné, ça va ressortir, et ça ressort pas comme on l'espère ou pas comme on l'attend. C'est-à-dire que plus on essaye de mettre ça sous l'été noir ou de cacher ça, plus ça peut ressortir de manière brusque et parfois violente. Et notre société, parfois, a du mal à comprendre ça. C'est-à-dire qu'on se dit, non, mais pourquoi ce jeune-là, pourquoi il dit ça, pourquoi il siffle notre hymne, par exemple, pourquoi il s'identifie à un pays où il n'a jamais mis les pieds. Et je pense que c'est aussi le fruit du déni qu'on a de notre histoire et de sa complexité. Moi, je suis pour que tous ces sujets-là, ils soient abordés de manière tranquille, apaisée. Voilà, qu'on fasse du travail d'histoire. Alors voilà, je prêche pour ma paroisse, mais qu'on fasse un travail d'histoire et que on peut en tirer que des bénéfices de tout ça, parce que une fois qu'on sait, alors ça ne veut pas dire que c'est fini et que voilà, on peut l'avenir est radieux, mais je pense que ça aide, que ça soit de manière collective ou même de manière individuelle. Voilà, ça rejoint aussi le morceau qu'on parlait tout à l'heure. Je pense que la relation entre Youssoupha et son père, elle a pas été évidente.
Loin de là.
Elle a pas été évidente, et quelque part, ce morceau-là, qui a été enregistré, je crois, peu de temps avant la mort du père. Et d'ailleurs, on voit dans le clip, on voit le fils, le fils de Youssoupha qui est présent aussi. C'est aussi une manière de dire, bon voilà, il s'est passé des choses, et on veut mettre en avant, ce qu'on a en commun, et on veut faire un travail qui va nous aider en tant qu'individu, ici en tant que famille. Et je pense qu'en tant que société, c'est aussi très important.
Alors, avant de se quitter, quelque chose qu'on ne mettra pas sous le tapis, c'est le prix que tu as reçu récemment. Prix Stanislas, est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors ça, c'était la petite cerise sur le gâteau, le 14 janvier, l'Académie Stanislas, qui est une honorable institution fondée par Stanislas au XVIIIe siècle, a choisi de me remettre, ainsi qu'à d'autres personnes, un prix littéraire, le prix littéraire Georges Sadler, qu'elle remet tous les ans, pour cette biographie. Donc j'étais vraiment très... très honoré et très flatté. Voilà, Nancy, c'est ma ville. Même si je suis pas né à Nancy, et j'ai insisté dans mes remerciements sur cette idée-là que on vient tous de quelque part, et parfois on vient d'ailleurs, mais voilà, c'est symboliquement, ça m'a fait plaisir que quelque part maintenant je me sens un peu mieux intégré à Nancy. Voilà, on m'a remis un prix
un peu
à Nancy.
Plus légitime en tant que Nancyien.
Voilà, non pas que je me sente pas légitime, mais ça symboliquement, c'est des choses qui sont bonnes à prendre. que des gens qui prennent le temps de lire mon livre et en reconnaissent l'intérêt. Voilà, ça fait plaisir, je prends tout à fait ce genre de récompense.
Alors, est-ce qu'il y a des projets à venir? Alors bon, pour l'instant, j'insiste, hein, ça fait un an hein, qu'il est sorti. Hein,
ça va faire un an, là, dans 13 jours, c'est sorti voilà. Le 15 février 2023. Mm-hmm. Effectivement, bah, il ne faut pas laisser trop retomber la sauce. Donc, il mm-hmm. y a d'autres choses en route. Là, il y a un ouvrage en préparation chez Novice mm-hmm. Qui devrait sortir en septembre. Qui sera cette fois-ci un ouvrage collectif mmh. que j'ai le plaisir de diriger, où on va explorer des trajectoires de personnes qui ont, grosso modo, pour dire ça en deux mots, on pourrait appeler ça des transfuges, mmh. ou en tout cas des personnes qui vont, par exemple, partir de l'extrême gauche et puis qui vont finir leur carrière à l'extrême droite, mmh. ou qui vont être pacifistes et puis qui vont finir partisans de la guerre, qui sont... plutôt en faveur de Gaulle et qui vont être contre... Voilà, ce genre de parcours-là. Mm. Donc, on travaille dessus. Il y a pas mal d'auteurs nancéens, hein, d'ailleurs, mm-hmm. des universitaires, des collègues, des amis. Donc, voilà, j'en dis pas plus, mais on aura des personnages très intéressants. Donc, ça sera moins développé. On va un chapitre par personnage. Mm. Et l'idée, c'est de... Peut-être, c'est toujours cette question-là d'explorer l'âme humaine et mmh. là où elle nous emmène en fonction des circonstances. Voilà, on va aussi revenir sur comment la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, a pu conduire des personnes à prendre des virages assez surprenants, mmh. soit dans le sens de l'histoire, mmh. Ou alors dans le sens contraire de l'histoire. Et, mmh. et une fois encore, il ne s'agit pas de juger, mais de donner des éléments au lecteur, de juger, d'éclairer ce moment de basculement d'un côté à l'autre ou dans un camp à l'autre. Et puis voilà, puis chacun ensuite en tire les leçons qu'il veut bien en tirer.
Eh bien, pour l'instant, vous avez, voilà, ce sera en septembre. On t'invitera très probablement, enfin c'est même sûr, pour cette œuvre-là. Pour l'instant, vous pouvez vous délecter de ce livre, de cette biographie, Philippe Rondeau, maître espion. Et puis, quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. On va parler de chirurgie, on va parler des yeux et on va se quitter avec un groupe que tu adores, c'est Afrika Bambaataa pour Thug Life.
Merci beaucoup.
Your life is over now. You're dead as the night. Oh. Oh, shoulda run your life, right? The story over. Oh, I got to go now. Yo, check out my brother there, they call William Kinsington.